Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense comme je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?
Lorsque l'État abuse, que faut-il faire ? Lorsque nous sommes convaincus, au fond de notre conscience, que ce que le gouvernement nous dicte de faire est une erreur monumentale, alors est-ce qu'il faut quand même courber les chines ? Derrière ces questions, il y a un petit ouvrage et un concept qu'on va explorer ensemble, celui de désobéissance civile, théorisé dans les années 1850 par Henry David Thoreau. Tout processus de vote est une forme de jeu, comme les dames ou le backgammon. Un jeu qui va être relevé d'un soupçon de morale. Un jeu avec le bien et le mal. Un jeu sur des questions morales. Et ce jeu est naturellement accompagné de paris. Alors bien sûr, les votants ne misent pas leur propre personne. Dans le meilleur des cas, je vote pour ce qui me semble juste, mais je n'engage jamais ma vie sur la victoire ou la défaite de cette justice. Je suis prêt, en fait, à laisser la majorité en décider. Même lorsque vous votez pour la justice, vous ne faites rien pour elle. Vous ne faites qu'exprimer faiblement aux hommes votre désir de la voir emporter. Le sage ne doit pas laisser la justice à la merci du hasard, ni souhaiter qu'elle l'emporte grâce au pouvoir de la majorité. Parce que l'action des masses ne recèle que fort peu de sagesse. Parce qu'elle arrive toujours trop tard, après coup. Lorsque la majorité votera enfin l'abolition de l'esclavage, ce sera parce que les masses seront devenues indifférentes à l'esclavage, ou bien parce qu'il ne restera plus beaucoup d'esclavage à abolir par le biais de leur vote. Ce sont elles, les masses, qui seront alors les esclaves. Le seul vote susceptible de hâter l'abolition de l'esclavage est celui de l'homme qui, par son vote, affirme sa propre liberté, dans son action, de celui ou celle qui s'engage pour la justice ou contre l'injustice. Mais comment faire face à l'injustice ? Parce qu'il n'est du devoir d'aucun homme ou d'aucune femme de se vouer entièrement à l'éradication d'une injustice, fût-elle la plus énorme. Chacun peut décemment poursuivre d'autres buts, mais il est du devoir de l'homme ou de la femme, à tout le moins, de s'en laver les mains. Et s'il décide de ne plus s'y intéresser, au moins, de ne pas lui apporter son soutien dans les faits. Voyez quelles incohérences grossières nous tolérons aujourd'hui. J'ai entendu certains de mes concitoyens dire, dans ma ville, « Il ferait beau voir qu'on m'ordonne de participer à la répression d'une révolte d'esclaves, à ça non jamais, ou bien de m'enrôler pour la guerre au Mexique. Non jamais je n'obtempérerai. » Et pourtant, ces mêmes hommes ont tous fourni un remplaçant, que ce soit de manière directe via leur allégeance ou au minimum de manière indirecte via leur argent. Alors, ce qu'on voit parfois, c'est que le soldat qui refuse de servir dans une guerre injuste est applaudi par les hommes du gouvernement qui ne refusent pas de soutenir le gouvernement injuste qui mène cette guerre. Il est applaudi par ceux dont il défie l'action et annihile l'autorité. Comme si l'État était pénitent au point de recruter quelqu'un pour se fustiger pendant qu'il commet ses péchés, mais certainement pas au point de cesser un instant de les commettre. C'est ainsi qu'au nom de l'ordre et du gouvernement civil, nous sommes tous, finalement, amenés à honorer et soutenir notre propre vilenie. Le péché suscite d'abord peut-être la honte, et puis finalement, l'indifférence. D'immoral, il devient, pourrait-on dire, amoral, et non dénué de nécessité dans le mode de vie que nous sommes bâtis. Donc, ceux qui, tout en désapprouvant le caractère et les actes d'un gouvernement, lui offrent leur allégeance et leur soutien, sont, finalement, sans aucun doute, ses piliers les plus solides. Et ce sont par ce fait même les plus sérieux obstacles à la réforme. Face à eux, il ne nous reste qu'une seule chose, la désobéissance.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense donc je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?